ne pas accepter la dictature d'un capitalisme mondial sorti de toute régulation.
Cette économie, elle ne peut pas être la référence absolue. Elle ne peut pas être une divinité.
Ce qui est important, c'est de réunir toutes les énergies pour arriver à formuler un nouveau projet vers lequel on a envie d'aller.
C'est l'occasion de recréer du collectif, de réfléchir ensemble.
Je vous le dis, une autre voie sur le plan économique est possible et la tâche qui nous incombe est exaltante.
L'économie sociale et solidaire peut apporter sa pierre pour ce nouveau projet.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle. Bienvenue dans notre émission Demain l'écho. Demain l'écho, c'est une ou deux fois par mois sur microrebelle.fr, en podcast et en téléchargement. Demain l'écho vise à présenter la réalité de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, sur le bassin minier et au-delà, vise à présenter les organisations qui composent l'ESS et leurs propositions, leurs projets, inscrits dans la mise en œuvre d'une économie centrée sur les hommes et les femmes et non sur le profit. Cette émission est animée par les membres du Toit commun, hommes et femmes, engagés dans des projets en économie sociale et solidaire sur le bassin minier. Le Toit commun, c'est la maison de l'ESS, en centre-ville de Lens, une maison qui ouvrira ses portes durant le premier trimestre 2022. Pour cette émission, nous sommes deux du Toit commun. Je suis donc Lucien et je suis accompagné de Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte.
Bonjour.
En studio, dans le public, il y a d'autres membres de l'équipe du Toit commun que je salue. Toute la partie technique de l'émission est assurée par Roxane, de Micro Rebelle, que nous remercions pour sa disponibilité. Aujourd'hui, dans Demain l'écho, nous avons le plaisir d'accueillir deux écrivaines, deux autrices, Aurore Bimont, tout d'abord. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Et également Juliette Deck. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors Aurore et Juliette viennent de publier un ouvrage intitulé « Écologie, mieux comprendre pour tout changer ». Aujourd'hui même, ce soir, elles assurent une conférence débat avec des hommes et des femmes engagés dans l'économie sociale et solidaire dans le cadre du mois de l'ESS qui se tient chaque année en novembre. L'écologie, vaste sujet s'il en est évidemment une préoccupation de premier ordre pour de nombreux hommes et femmes et tout particulièrement au sein des organisations de l'ESS qui souhaitent contribuer à imaginer d'autres modèles économiques. Avant de débuter notre échange, je vous propose, Aurore et Juliette, de vous présenter.
Oui, ben, bonjour à tous à nouveau. Donc, moi, c'est Aurore. J'ai fait mes études avec Juliette. C'est un bout de notre vie qu'on partage en commun en sciences et politiques de l'environnement. Et puis ensuite, j'ai un parcours qui allie la transition écologique et la transition démocratique. À la fois sur, j'ai travaillé pour la COP21, pour des collectivités locales et j'ai également animé un incubateur, donc une structure qui accompagnait des porteurs de projets d'innovation démocratique.
Merci Aurore. Juliette ?
Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Juliette Deck et donc ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur les sujets écologiques et en particulier sur le gros sujet du changement climatique via différentes structures. Donc effectivement, avec Aurore, on a étudié le sujet en fait lors de nos études. On a porté plein de projets dans le cadre d'associations, notamment une association qui s'appelait Climates, qui était un groupement de jeunes pour travailler justement sur ce sujet climatique à l'international.
Qui existe encore.
Qui existe encore, tout à fait, super dynamique, qu'on salue. Et aujourd'hui, je suis dans une activité de conseil aux entreprises pour les aider à réfléchir sur leur impact sur le climat et l'impact du climat sur leurs activités.
Bien, merci Juliette, merci à toutes les deux. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, des questions de votre livre, il est difficile en matière d'écologie de ne pas évoquer la COP26 qui vient de s'achever à Glasgow. Pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors toujours des choses en demi-teinte, hein. On n'a jamais un monde parfait, donc on n'est jamais 100% content du résultat. Je pense qu'il y a des avancées et clairement des choses qui ne sont pas suffisantes. Dans les avancées notables quand même qu'on peut souligner, c'est la première fois que les mots des énergies fossiles ont été prononcés dans des textes officiels des négociations internationales. Donc c'est la première fois en fait que des États se sont engagés à mettre fin au financement des énergies fossiles. Donc c'est clairement le cœur de la machine, c'est le cœur de la cause du dérèglement climatique. Donc c'est un enjeu très très important que des États disent on va arrêter de financer de nouveaux projets d'exploitation pétrolier et gazier dans le monde et au charbon évidemment. Donc ça je pense que c'est quand même une avancée majeure.
Avec peut-être une petite réserve, c'est que la France a brillé par son absence dans cet aspect des signatures concernant
Alors, il me semble que la France vient d'annoncer qu'elle rejoignait le dispositif. Hein, j'ai vu une communication hier. Effectivement, ils ont raccroché le wagon en annonçant qu'ils mettaient fin au financement à l'étranger en 2022.
Très bien, je ne savais pas.
Donc, je pense que ça, vraiment, on peut s'en féliciter parce que ça rentre dans le concret. Là où la COP a vraiment pêché, c'est sur l'aspect du financement aux pays pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a beaucoup de pays en développement qui demandent à grands cris de l'aide financière pour pouvoir s'adapter aux conséquences dramatiques du dérèglement climatique. L'argent aujourd'hui manque et n'a pas été promis à la hauteur par les pays riches. Donc il y a cet enjeu vraiment de solidarité internationale, de justice climatique, qui aujourd'hui fait vraiment défaut dans les résultats de la COP26.
Oui, et je crois que le sujet également du financement concernait le financement des pertes et dommages qui ne peuvent pas être réparés finalement suite aux conséquences du changement climatique, parce que là on arrive à un moment donné où il ne suffit plus de s'adapter aux conséquences du changement climatique, il va aussi falloir financer ces dommages, ce que le changement climatique va détruire définitivement. Et c'est vrai que les pays du Sud réclament de la part des pays du Nord des financements pour réparer ces dommages, considérant que nous sommes à l'origine des émissions de gaz à effet de serre historiquement et que on est encore de très gros émetteurs. Donc il y a vraiment ce sujet du financement qui est central et moi ce que ça m'évoque comme question derrière, c'est pourquoi on n'arrive pas à créer un système financier qui arrive à financer vraiment ce qui est vital pour les êtres humains, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique et le financement des dommages qu'il peut générer. Ça met vraiment la question du modèle financier au cœur et également la question de la dette, puisque finalement tout ça c'est une question de jusqu'où on est prêt à s'endetter pour financer l'investissement nécessaire, et est-ce que finalement c'est grave de s'endetter quand il s'agit juste de faire en sorte de pouvoir s'adapter de manière vitale à ces changements majeurs qui arrivent et qui vont arriver, quoi.
Bien, donc si ça vous convient, on va peut-être y revenir dans le cadre de notre échange. Hein. Bon, ceci étant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. C'est ce livre, hein, « L'écologie, mieux comprendre pour tout changer » que vous avez écrit. Alors on va être tous les deux, hein, Marie-Charlotte et moi, à vous poser quelques questions. Je laisse tout de suite la parole à... Je te laisse la parole, Marie-Charlotte ?
Oui. Alors moi, la première question que je me suis posée donc à la lecture du livre, je me suis vraiment posé une question tout au long de ma lecture, c'est quoi l'objectif de ce livre en fait ? Qui est le public ? Qui est la cible ? En tant que militante quand même écologique, en tant que personne qui est intéressée par la cause, qui se renseigne, il y a eu des données évidemment qui m'ont percutée, hein, mais globalement, je peux pas dire que j'ai vraiment appris des choses, en tout cas des constats qui ont été faits. Du coup, la question c'était à qui il s'adresse ? Est-ce que c'est un livre grand public en fait ? Pourquoi vous l'avez écrit ? Dans quel but ? C'est quoi l'objectif que vous êtes mis en écrivant ce livre-là ?
Je peux commencer effectivement. Donc c'est vraiment un ouvrage grand public. L'objectif pour nous c'était de pouvoir expliquer de façon assez simple pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle tellement d'écologie, pourquoi est-ce qu'on clame haut et fort qu'il y a une énorme crise et un défi écologique majeur pour la survie de l'humanité en général. Et donc on voulait expliquer les fondamentaux scientifiques de ce sujet, parce que je pense que toi tu peux être très sensibilisé, mais il y a beaucoup de gens qui entendent beaucoup ces sujets à la radio, à la télé, sur le nucléaire, le plastique, la pollution, la biodiversité, etc. Mais faire le lien entre tous ces sujets, c'est pas forcément évident, et comprendre pourquoi on en est arrivé là, c'était vraiment un des objectifs. Et l'autre aspect, c'était de proposer aussi des solutions, non seulement concernant les modes de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tous nos modes de vie vont devoir être repensés, la façon dont on mange, dont on se déplace, là où on habite, et aussi proposer des réflexions plus profondes encore sur quelles étaient les nécessités en termes de changement de modèle économique et démocratique. Donc pas seulement la vie de tous les jours, on va dire, mais aussi le système, les vrais modèles de développement dans lequel on est, et en quoi tout ça va devoir être profondément modifié.
Oui, le bouquin s'adresse vraiment au grand public et je pense qu'il peut tout particulièrement parler à un public assez jeune. Voilà, alors peut-être à partir du collège jusqu'aux études supérieures. Voilà, c'est vraiment un livre complet qui prend la question écologique de manière 360 et pas seulement sous l'aspect environnemental. On parle aussi beaucoup d'économie, de social, de démocratie. Et c'est voilà, peut-être un bon cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent sous le sapin aux enfants et voilà, aux ados qui se posent plein de questions aujourd'hui.
Attention au Noël trop dispendieux quand même. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Alors la deuxième question, c'était par rapport donc à l'organisation, enfin comment vous êtes organisé pour travailler, puisque c'est un livre donc pour les personnes qui écoutent. Donc en fait, c'est un livre qui se découpe en trois parties. Les deux premières parties étant surtout des constats en fait, et c'est des constats qui sont très pointus, hyper documentés. Il y a une compilation de données, de sources très diverses. Et même dans la dernière partie qui propose des modèles, c'est aussi des modèles, enfin des propositions qui s'appuient sur des choses qui existent, qui ont été écrites. Pareil, hyper documentées, très précises. Donc ma deuxième question, c'était comment vous êtes organisé dans l'écriture du livre, comment vous êtes dispatché le travail, quel travail en binôme ça a été en fait.
Alors effectivement, on s'est réparti les chapitres en fonction de nos sujets de cœur, les sujets peut-être sur lesquels on avait plus d'expérience ou à l'inverse des sujets qu'on avait particulièrement envie de creuser parce que, voilà, je m'adresse aussi aux auditeurs qui auraient envie d'écrire un livre. Un livre, c'est aussi une période où on va pouvoir approfondir, creuser vraiment les sujets qui nous tiennent à cœur et donc finalement aussi une période d'apprentissage. Et ce qu'on met dans le livre, au final, c'est peut-être uniquement 10% de tout ce qu'on a lu. Donc voilà, on s'est réparti les chapitres comme ça, mais évidemment, c'est un travail vraiment en binôme. Et donc, on relisait, on débattait aussi vraiment de ce qu'on avait envie de mettre, notamment sur les chapitres où on prend peut-être position davantage que d'autres. Donc on a vraiment travaillé en binôme aussi dans la relecture après. C'était un vrai travail de duo. Et au total, ça nous a, voilà, c'est un projet finalement qui a été assez rapide pour voilà l'écrit, enfin voilà pour le monde de l'édition. C'est un projet qui nous a pris un an, dont à peu près je dirais trois mois de travail à temps plein chacune, si on fait le total. Donc ça a été assez rapide et on a beaucoup travaillé avec de la documentation. Moi j'aurais bien aimé, enfin je pense qu'on aurait bien aimé faire davantage d'entretiens, d'interviews. On en a fait un petit peu, mais voilà, c'est pour le prochain bouquin, ce sera peut-être plus le cas.
Lucien se demandait si c'était un livre de confinement, écrit pendant le confinement.
Ça a été un livre un peu de confinement, oui. C'est vrai. c'est tout à fait vrai. Ça a été un peu un hasard de calendrier, je pense. C'est pas forcément le confinement qui a déclenché ça, mais c'est vrai que ça a été une période aussi particulière et du coup propice à la réflexion de fond, ça c'est sûr.
Alors, toujours sur la forme. Donc en fait, chaque chapitre et petit sous-chapitre, en fait, ça se présente sous forme de questions. Donc par exemple, la première étant l'écologie, science ou mouvement politique. On a le bio, concept, marketing ou véritable révolution verte, etc. Donc c'est toujours en fait une question et votre réponse à la question. Et je me demandais si ces questions, est-ce que c'est des questions que vous posez ou est-ce que c'est des questions que vous entendez ou qu'on sait que majoritairement les gens se posent en fait. D'où elles viennent ces questions ?
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y avait plein de sujets où on était sûr qu'on voulait parler de ça pour aussi voilà, expliquer pourquoi il y avait une crise écologique majeure en cours, mais la majorité des questions, on les a choisies parce que c'est des sujets qui nous intéressent profondément à titre personnel. Et en fait, ce qui était excellent dans l'écriture, c'est que en démarrant, on n'avait pas forcément une idée préconçue de ce qu'on allait écrire. Je pense par exemple à la question de est-ce que la démocratie c'est un régime adapté à l'urgence écologique ? Effectivement, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, qu'on se posait nous-mêmes, et donc on n'avait pas une idée préconçue du résultat. Pareil, est-ce que l'effondrement dont on entend beaucoup parler, qui est très anxiogène pour les jeunes, est-ce que c'est une fatalité ou pas ? Est-ce qu'il faut vivre plutôt à la ville ou à la campagne si on a vraiment des convictions écologiques ? Tout ça, c'est des sujets qui nous passionnaient en fait à titre individuel et je pense que c'est aussi des questions que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Des jeunes qui sont parfois de plus en plus inquiets par leur avenir et qui cherchent, je pense, des réponses. qui ne sont pas forcément unidirectionnelles. Hein. Justement, on a proposé plusieurs possibilités de réponse à chaque fois. On a quand même essayé d'adapter une approche assez objective. Mais voilà, ouais, c'est des questions qu'on se posait vraiment.
Oui, et c'est un peu des questions aussi pieds dans le... Enfin, c'est parfois des questions un peu pieds dans le plat. Donc voilà, comme la question sur la démocratie. Ou la question sur le capitalisme est-il coupable ? On n'a pas voulu tourner autour du pot, on a voulu voilà, prendre les vraies questions qui fâchent aussi et qui font débat aussi dans le milieu écolo et parmi les convaincus. Et en même temps, même si on propose des positions, on a essayé de garder un peu l'esprit de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc voilà, c'est aussi donc Cyril Dion et Mathilde Himmer qui faisaient partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat ont préfacé le livre, on pourra peut-être revenir après sur ce que c'est. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer aussi les arguments pour, les arguments contre, et à chaque fois de proposer voilà, la voie qui nous semblait la plus juste, mais en ayant d'abord présenté les divers arguments pour que chacun puisse aussi se faire sa propre opinion, montrer que ce n'est pas noir ou blanc, et voilà, montrer que, par nature, la question écologique est une question complexe, car elle réinterroge l'ensemble de nos modes de vie. Donc il n'y a pas une recette, un modèle, et on ne pourra pas faire la transition écologique si on ne développe pas l'esprit critique de chacun d'entre nous sur cette question-là.
Alors Marie-Charlotte évoquait justement le découpage du livre en trois parties, en insistant sur la première partie, enfin les premières parties qui sont plus liées à des constats. Donc effectivement, il y a différents angles d'attaque qui sont proposés, hein, le dérèglement climatique, l'eau, la biodiversité, la déforestation. Alors on va pas tout reparcourir, c'est pas possible dans le cadre de l'émission, mais... Est-ce que vous pourriez choisir une de ces thématiques et puis nous donner quelques points de repère, en quelque sorte, sur les réalités, ce que vous avez analysé, ce que vous en pensez ? Par exemple, sur la question de l'eau, ou une autre, hein, si vous préférez.
Effectivement, la question de l'eau, c'est une question absolument cruciale. Hein, donc le chapitre s'appelle « Va-t-on manquer d'eau ?» Parce que quelque chose qui était considéré comme une ressource infinie, illimitée, semble à manquer. Aujourd'hui, parce qu'on vit de plus en plus de sécheresse, parce qu'il y a pas mal de pays qui ont du mal à s'approvisionner en eau. Et on se demande, avec une population qui grossit et des besoins à la fois agricoles et industriels qui ne cessent d'augmenter, est-ce qu'on va être capable d'avoir suffisamment d'eau pour répondre à nos besoins ? Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu décortiquer et expliquer que le problème fondamental, effectivement, de ce qui se passe, c'est d'abord qu'on considère cette eau comme illimitée. Mmh. Et ça fait écho à plein de choses qu'on raconte dans ce premier chapitre, c'est qu'effectivement, la nature qui nous entoure, elle n'est pas illimitée. Et il existe des limites planétaires. Et donc, il faut vraiment re-questionner nos modes d'usage, absolument. Et donc, dans la question de l'usage de l'eau, Il y a évidemment le sujet de l'agriculture, qui est aujourd'hui le premier poste de consommation d'eau dans le monde à cause des cultures notamment irriguées. Et donc, pour assurer la sécurité alimentaire d'aujourd'hui et de demain, il va falloir quand même sacrément repenser les systèmes agricoles en se disant, effectivement, à cause du dérèglement climatique, à cause du fait qu'on augmente encore en population, il va falloir être plus intelligent dans la façon dont on utilise de l'eau. Et pareil pour l'industrie, il y a plein d'eau qui se cache derrière des objets qu'on consomme tous les jours. Le chocolat, les voitures, en fait, l'eau est à la base de plein de choses qu'on consomme. Et donc, si on continue à produire, à consommer autant, ça va poser des sacrés problèmes en termes de capacité à fournir de l'eau. Donc, il va falloir réfléchir de façon plus intelligente.
Oui, peut-être aussi, on peut prendre l'exemple de la déforestation. En fait, cette première grande partie prend un peu la question environnementale sous l'aspect ressources, parfois, donc avec l'eau, avec la déforestation, la forêt, voilà. Et je dirais qu'on voit plusieurs... déjà, dans chacun de ces chapitres, on montre qu'il y a plusieurs niveaux de solutions. Pour la déforestation, on a souvent tendance à penser que c'est quelque chose de très loin qui ne nous concerne pas, comme la question de l'eau, parce qu'on ne manque pas d'eau en France. Alors qu'en fait, comme le dit Juliette, c'est quelque chose qui se cache derrière chacun de nos actes de consommation. Quand on achète du dentifrice Colgate, quand on achète un pot de Nutella, quand on achète une bague en or, en fait, derrière tous ces produits... se cache de la déforestation. Et donc nous, en tant que citoyens, on peut déjà avoir une marge de manœuvre en s'engageant, voilà, en signant des pétitions, en s'engageant pour des ONG, aussi en demandant à l'État de légiférer pour interdire la déforestation, par exemple en Guyane française, interdire les nouvelles mines d'or et trouver des solutions pour les orpailleurs qui vivent en fait de ce commerce illégal aujourd'hui en Guyane française parce que c'est leur seule source de financement. Donc voilà, comment l'État peut à la fois légiférer et proposer de nouveaux débouchés économiques pour les populations qui dépendent de ces ressources en fait que l'on surexploite. Et puis il y a aussi le niveau des entreprises, pour l'eau comme pour le sujet de la forêt, c'est aussi comment on force les entreprises à adopter des bonnes pratiques, comment on leur donne envie aussi d'adapter ces bonnes pratiques, et puis peut-être aussi comment on revoit le modèle de l'entreprise, mais on pourra y revenir après sur ce sujet. Et peut-être qu'on peut en profiter pour aborder la question des communs, ouais, qui est un autre chapitre.
Justement, c'était, voilà. C'était ma question juste derrière. Est-ce que ce qui sous-tend pas, parce que là, on a parlé en fait de la gestion des ressources, mais la question qui est derrière, en gros, c'est la question de la propriété de ces ressources quand même, puisque sur l'accès à l'eau, sur l'accès... Et là, par exemple, sur l'accès à l'eau, on n'est pas sur quelque chose qui ne nous touche pas. Dans le bassin minier, on est concerné par cette question de l'accès à l'eau, puisque donc y a une association ici très locale qui s'appelle Au Secours 62, qui depuis des années milite pour essayer de refaire revenir l'eau en régie publique, parce que du coup, il y a la question de la consommation, mais il y a surtout la question de comment on y a accès et par quel biais financier. Donc c'est pareil pour la forêt, c'est pareil pour toutes les ressources finalement. C'est du coup le problème de la propriété en effet.
Oui, et d'ailleurs, en fait, ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai que d'un côté, il faut garantir l'accès à ces ressources essentielles pour tout le monde. Donc par exemple, en faisant en sorte que les premiers litres d'eau soient gratuits pour tout le monde, pour que, que ce soit... Parce que c'est une question vitale, en fait, avoir accès à cette ressource. Et en même temps, comment ne pas la surexploiter? Et donc, comment on se dote de mécanismes de gouvernance et de règles collectives pour gérer ces ressources démocratiquement, puisque ce sont des ressources, finalement, qui sont utiles à tous, à nous, êtres humains, mais aussi aux autres êtres de cette planète, êtres vivants. Et donc, le modèle des communs, il est intéressant, puisque, en quelques mots, gérer une ressource comme un commun, c'est faire en sorte qu'une communauté gère cette ressource et non pas qu'il y ait un propriétaire unique. Et c'est aussi se donner des règles collectivement pour gérer cette ressource de manière appropriée. Et donc, dans le chapitre sur les communs, voilà, on voit qu'il y a quelques règles que Elinor Ostrom a observé dans ses recherches. Elinor Ostrom, c'est une politologue qui a beaucoup travaillé sur cette question. Peut-être que les auditeurs la connaissent. Elle a été prix Nobel sur ce sujet. Et donc, parmi les règles essentielles pour qu'une ressource soit gérée comme un commun, il y a notamment le fait de bien délimiter cette ressource, savoir ce qui appartient au commun, ce qui n'appartient pas. Avoir des règles claires, explicites pour tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse, au fur et à mesure, qu'il y ait des mécanismes de révision de ces règles collectivement, démocratiquement. Et peut-être aussi, je ne vais pas toutes les citer, hein, parce qu'il y en a plein, mais une règle qui paraît peut-être, qui est moins intuitive, en fait, il faut qu'il y ait un mécanisme de surveillance pour faire en sorte que chacun applique vraiment ses règles, éviter qu'il y ait des personnes dans la communauté qui, finalement, s'approprient la ressource ou sortent des bonnes règles de gouvernance. Donc, la coopération autour d'un commun, ça ne veut pas forcément dire... Enfin, ce n'est pas forcément bisounours. Hein. C'est se donner les règles qui nous permettent de vivre en collectivité. Et c'est comme les lois. Voilà, y a des lois qui nous empêchent de faire du mal à son voisin. Pareil, en collectivité, autour d'un commun, comment on fait en sorte de garantir le bien vivre ensemble et l'accès à tous autour de cette ressource. Donc, on voit qu'il y a des modèles qui existent. Et les communs, pour en finir avec ce sujet, c'est vraiment une sorte de modèle, j'aime pas le mot de modèle, mais une manière de vivre et de vivre dans son environnement, de respecter à la fois les gens avec qui on est parce qu'on respecte leurs besoins d'accéder à ces ressources et on respecte les limites planétaires dans la gestion de ces ressources. C'est un modèle qui existe depuis des milliers d'années. On a mis des exemples dans le livre d'un village suisse qui fonctionne de cette manière-là depuis 1200, depuis donc presque 1000 ans maintenant. Voilà, d'autres communautés, évidemment, on pense aux communautés d'Amazonie, enfin les peuples premiers qui vivent de cette manière-là. Alors on pourrait dire naturellement, ce serait un abus de langage, mais voilà, comme ça depuis des années. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne, et peut-être qu'on peut aller piocher dans ces modèles un peu ancestraux qui fonctionnent bien pour réinventer notre économie aujourd'hui.
Alors dans le chapitre sur les communs, justement, vous citez Pierre Dardot, c'est quelqu'un qu'on a fait venir à plusieurs reprises dans ce studio, qui a écrit avec Christian Laval le livre Commun, et qui donne effectivement un éclairage tout à fait sympathique et chouette, je dirais, tout à fait offensif sur cette question des communs et du commun, avec différents types de communs, des communs alimentaires, des communs de production, des communs culturels, enfin, etc. etc. quoi. Je pense qu'il y a effectivement matière à gratter sur ce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement comme type de gestion, très éloigné de la gestion de l'eau par la multinationale Veolia sur ce territoire typiquement. Voilà.
Oui, effectivement, c'est une vraie bataille, c'est pas du tout anecdotique, parce qu'effectivement, face au fait qu'on se rapproche de plus en plus, voire on a déjà dépassé les limites planétaires, donc il faut bien faire attention à la ressource qu'on consomme, eh bien le modèle alternatif au commun, si on peut l'appeler comme ça, c'est effectivement de mettre des prix partout pour que la ressource soit plus chère et donc qu'elle soit consommée avec plus de modération. Et dans ce système-là, malheureusement, il y a plein de dérives sociales du fait que c'est des solutions qui vont permettre aux plus riches d'entre nous de pouvoir accéder à ces ressources, et ça laisse de côté toute une population qui ne pourra pas le payer. Et donc effectivement, l'alternative à rendre l'eau accessible à tous, c'est ce qu'on a vu se développer en Australie et maintenant aussi aux États-Unis sur des marchés de l'eau, où l'eau devient une ressource comme une autre et fait l'objet de marchandages sur un prix de marché. Et c'est des choses qui se développent aujourd'hui très rapidement, en plus accentuées par le dérèglement climatique qui fait que cette ressource est de plus en plus rare. Et ça, c'est un modèle, je pense, de développement économique qu'on n'a pas tellement envie de voir prospérer. Et heureusement, en Europe, aujourd'hui, on en est plutôt préservé.
Et face à ce modèle un peu de la multinationale qui gère de manière un peu caricaturale, mais néanmoins vraie, de manière financiarisée ses ressources, parce que son objectif, c'est de répondre à l'intérêt des actionnaires, il y a en face le modèle, si on peut l'appeler comme ça, de l'économie sociale et solidaire, des coopératives. Et peut-être qu'un modèle qui est intéressant à citer, c'est celui de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est un statut de l'économie sociale et solidaire, qui permet de mettre autour de la table toutes les parties prenantes d'un projet. Donc typiquement, si on parle de la ressource en eau, une ressource en eau qui serait gérée comme un commun pourrait très bien être gérée grâce à une SIC qui serait constituée des habitants du territoire irrigué par cette eau, du bassin versant de cette ressource en eau, la collectivité ou les collectivités locales qui peuvent être partie prenante de cette coopérative, l'entreprise, les personnes qui géreraient cette ressource en eau. Et on peut tout à fait imaginer des modèles partenariaux de ce type-là qui allie citoyens, collectivités locales, entrepreneurs, solidaires, etc., pour réinventer notre économie, pour qu'elle gère différemment ces ressources précieuses pour l'être humain et pour l'ensemble de la planète de manière différente.
Voilà, la SIC, c'est un modèle qu'on connaît bien, puisque le toit commun, typiquement, c'est une SIC, dans laquelle il y a des salariés, des bénévoles, des fournisseurs, des collectivités locales. Donc c'est quelque chose, effectivement, on ne peut que préconiser.
Alors, c'est bien, c'est que vous avez déjà, dans la réponse aux questions précédentes, mâché un petit peu le travail pour ma question suivante, puisqu'il y a eu des mots qui ont été dits relatifs à la législation. Et en fait, ma question suivante était concernait le rôle et la place de l'État, en fait, dans cette transition. L'État est présent en filigrane dans tout le livre, à la fois par son action et son inaction, ou ses possibilités d'action, en fait, finalement. Je voulais partir de l'exemple de la taxe carbone, qui est un exemple quand même qui fait débat. C'est vraiment un sujet sensible qui revient en plus. Alors là, justement, en plus, Juliette, tu parlais de l'accès à la ressource avec l'augmentation des prix. On est encore en plein dedans avec notamment l'augmentation du prix de l'essence. Et donc, du coup, comment ne pas évoquer le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui s'était vraiment cristallisé autour de cette question, et notamment de la taxe carbone. Vous reparlez aussi du mouvement des Bonnets Rouges, hein, qui était juste avant, mais sur le même sujet. Et en fait, on remarque que dans la façon dont l'État organise sa législation et du coup sa taxation, en fait, il y a quand même une inégalité sur... puisque le principe, c'est pollueur-payeur. Mais ça s'applique aux particuliers, en fait. Mmh. Et on remarque que dans sa façon de légiférer auprès des entreprises, on n'est pas dans le même système, puisqu'on est plutôt dans un système où on récompense ceux qui... plus des incitations à bien faire que des punitions quand on fait pas bien. Ce qui n'est pas du tout le même fonctionnement qui est appliqué aux particuliers. Et du coup, ça pose plein de questions, en fait. Enfin, moi, je me pose vraiment la question de... est-ce que c'est notre seul outil, c'est légiférer, en fait? Comment? Par qui? Et est-ce que, du coup, l'État est le mieux placé, finalement, pour porter la transition écologique? On a pioché une phrase dans votre livre qui est « L'action de régulation, voire de planification de l'État, est plus que jamais nécessaire ». Alors, je pense qu'on l'appelle de nos voeux, mais en fait, dans les faits, on sait que c'est pas aussi simple que ça.
Vaste question du rôle de l'État et de la législation. Donc effectivement, pour reposer le contexte, donc, on approche des limites planétaires. Et donc par exemple, pour le carbone, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un certain budget carbone qu'on a le droit d'émettre dans l'atmosphère pour rester en dessous d'une certaine température, au-delà de laquelle le climat peut vraiment se dérégler tellement vite que ça met en question la survie de l'humanité en tant qu'espèce. Donc c'est pas un petit enjeu. Et donc pour faire ça, pour réussir à ne pas dépasser la limite planétaire climat, il faut réussir à baisser nos gaz à effet de serre de 5% par an. Donc en gros, en ordre de grandeur, c'est à peu près un Covid additionnel tous les ans. Voilà. Et donc...
Pour planter le décor.
Et donc pour réussir à faire ça, effectivement, il faut réencastrer l'économie et l'ensemble de nos modes de vie dans les limites planétaires pour réussir à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a plusieurs solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, polluer ne coûte pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire c'est ce que le marché n'arrive pas à capter dans son fonctionnement. Et donc, on peut effectivement donner des incitations au marché en mettant un coût au carbone. Donc c'est ce qui existe par exemple au niveau du modèle européen, hein, pour une très grande partie des entreprises et des grands sites pollueurs européens. Et donc ça permet de dire que polluer, bah, ça a un coût en fait social. Et donc ça, il faut bien que quelqu'un le paye et surtout inciter à faire des mesures d'efficacité énergétique et de réduction de ces émissions-là. Donc ça, c'est une des choses que l'État peut faire. Mais effectivement... dans le fait de respecter ces moins 5% par an pour réussir à limiter le dérèglement climatique, on peut imaginer que la taxe carbone n'aille pas assez vite, parce qu'en vérité, tous les experts s'accordent à dire que le prix du carbone aujourd'hui est beaucoup trop faible pour engendrer un véritable changement, hein, d'ordre de grandeur dont on a besoin pour respecter cet objectif-là. Et donc, effectivement, se pose la question d'accélérer beaucoup plus vite pour changer toutes les infrastructures dont on dépend, pour vraiment réussir à couper le robinet et baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là-dedans, il y a le fait que pour moi, l'État, même si c'est peut-être faux par certains aspects de ce qui se passe en réalité, est quand même le garant de l'intérêt général et donc peut se permettre de mettre en place une certaine planification qui concernerait à la fois la rénovation des bâtiments, la gestion des transports, l'interdiction de certains modes de chauffage, la promotion de modes alternatifs comme le vélo, par exemple, de façon beaucoup plus forte, mettre en place les systèmes d'emploi, de reconversion professionnelle qui seront nécessaires pour les sites d'entreprise qui vont devoir fermer et celles qui vont devoir s'ouvrir. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un besoin de planification d'ordre national nécessaire si on veut respecter encore une fois cet objectif de réduire de moins 5% par an, hein, je le redis, nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Après, l'État n'est pas le seul garant de cet exercice, mais pour moi, on ne pourra pas se passer de cette planification pour y arriver, dans le temps imparti.
Oui, je m'inscris totalement dans cette réponse. Les pouvoirs publics doivent poser un cadre qui montre un chemin. Et ce chemin, il doit être en partie contraint parce que nous n'avons pas beaucoup le temps. Et après, pour compléter la réponse, ça ne veut pas dire qu'on doit tout attendre de l'État. Et c'est peut-être un excès inverse à éviter, hein, finalement, que de dire « Ah, mais l'État fait ci, l'État fait ça. » Quand on élit un président de la République, on a l'impression qu'on élit... que c'est la seule personne qui peut changer les choses en France. Enfin, non, aujourd'hui, l'État, comme toutes les collectivités locales, ont un pouvoir de coordination, un pouvoir de contrainte, évidemment, mais derrière, il faut réussir à mobiliser tout le monde. Et donc, moi, je crois aussi, parmi les pouvoirs publics, au rôle fondamental des collectivités locales. Les collectivités locales à tous les niveaux, par exemple les départements ont un rôle crucial à jouer d'un point de vue social puisque c'est les garants, c'est le garant des solidarités sociales et territoriales. La région et les intercommunalités ont un rôle essentiel dans la reconversion de l'économie puisque c'est eux qui s'occupent du développement économique des territoires. Et donc, dans les activités professionnelles que j'ai, par exemple, en ce moment, au sein du cabinet de conseil Utopie, on accompagne des régions à transformer leur modèle économique pour qu'aujourd'hui, développer économiquement un territoire, ça veuille dire allier la notion de créer des emplois locaux et répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc, les pouvoirs publics, c'est pas seulement l'État. Et oui, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental pour avancer dans la transition écologique. Après, ça ne veut pas dire que les entreprises n'ont pas un pouvoir d'initiative. Au contraire, il faut qu'elles bougent elles-mêmes. On pourra, c'est un peu une réponse de Normand. Il faut que tout le monde y aille, mais en même temps, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à atteindre les objectifs dans le pas de temps qui nous est donné. Et voilà, il y a des entreprises qui inventent des solutions absolument formidables, qui sont source d'innovation. Des entreprises au modèle très différent, de la petite PME à la grande entreprise, à l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il faut aussi saluer les initiatives positives qui vont dans ce sens. On pourra peut-être reparler après des limites aussi, hein, par exemple, la qualité de société à mission, on en parle plus loin dans le bouquin, évidemment, oui, il y a plein de limites, et on peut parler de à partir de quand c'est une récupération finalement par le grand capitalisme. mais en même temps, il y a des initiatives vraiment très, très intéressantes qu'il faut saluer. Je pense par exemple à la CAMIF que tout le monde connaît, qui est une entreprise, pardon. Je ne sais pas qui doit être née après la Seconde Guerre mondiale, vraiment très, très ancienne, qui avant proposait des catalogues de vente à domicile comme un peu la Redoute, qui a traversé une crise économique, qui a fermé et qui s'est relevée grâce à un patron visionnaire qui s'est donné une raison d'être qui lui a permis de donner un sens à son activité. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui vend des produits pour la maison, pour la plupart fabriqués de manière solidaire, donc par exemple avec des ateliers d'insertion professionnelle, avec des matériaux locaux, made in France, avec des matériaux recyclés de réemploi. Donc voilà, c'est aussi la preuve que les entreprises peuvent apporter leur pierre à l'édifice et on a vraiment besoin de toutes ces énergies autour de la table.
C'est vrai qu'il y a, comme tu le disais, des choses à faire du côté des collectivités locales, du côté des pouvoirs publics, ça c'est indéniable, du côté de toutes les entreprises. Ceci étant, prenons l'exemple de Total. Ça fait 50 ans que Total sait qu'il bousille le climat. Aujourd'hui, c'est avéré. Mm-hmm. Alors, qui peut faire quelque chose contre Total ?
Effectivement, le Total, donc, son activité dépend de l'extraction pétrolière et gazière. Elle a une toute petite partie de son activité qui repose sur les énergies renouvelables. Et donc, effectivement, si Total veut survivre ou rester pertinente dans l'économie de demain, il va falloir qu'elle change complètement son activité en arrêtant la partie fossile pour se diriger vers de nouveaux services orientés, par exemple, vers le renouvelable ou des solutions d'efficacité énergétique, etc. Mmh. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui peuvent influer sur Total. Il y a ses investisseurs. Donc aujourd'hui, il y a le grand mouvement de la finance responsable et verte. Alors, il y a plein de critiques à ce sujet, je pourrais développer. Mais donc, il y a certains investisseurs qui représentent des épargnants, des groupements d'épargnants qui veulent faire pression pour que les entreprises se dotent d'objectifs climatiques beaucoup plus ambitieux, ce qui, encore une fois, par Total, ne peut que passer par la reconversion d'activité, hein. Ça ne peut pas être autrement. Mais évidemment que ça ne sera pas suffisant. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre d'entreprise, comment est-ce qu'on peut accélérer la reconversion. Et ça, derrière, ça veut dire aussi des questions en termes de reconversion d'emploi. Mmh. Et j'insiste, la transition écologique, ça ne va pas être facile. Il va falloir négocier avec des syndicats et il va falloir permettre que les gens qui ne vont plus avoir d'emploi trouvent d'autres sources de revenus dans d'autres filières qui sont plus d'avenir. Et donc ça se prépare. Et donc là, évidemment que la mobilisation de l'État est absolument indispensable. Et il faut bien sûr des lois qui interdisent les nouvelles projets d'exploration fossile, qui interdisent l'usage du fioul progressivement, et un accompagnement, voilà, à la fois des emplois et créer de nouvelles activités. Donc tout ça ne va pas être simple, hein. Il faut que ça s'organise, et donc évidemment qu'on ne pourra pas le faire sans la puissance publique, c'est évident.
Non, mais juste pour rajouter, et venir encore une fois toujours nuancer tout ça, évidemment, Total fait partie des acteurs sur qui on lorgne tout de suite quand on parle de transition écologique, mais il faut bien se rappeler que Total répond aussi à une demande, c'est-à-dire que si on achète du pétrole, c'est qu'on a besoin de mettre de l'essence dans notre voiture aujourd'hui. Donc, derrière, ça veut dire que si on veut faire en sorte que Total switch, enfin change d'activité, il faut derrière réussir à trouver d'autres, par exemple, solutions de mobilité. Et ça, ça veut dire l'engagement citoyen, mais aussi l'engagement des pouvoirs publics locaux. Comment on fait en sorte que les transports en commun soient accessibles à tous? Comment on fait en sorte de mettre des vélos à disposition du plus grand nombre, etc. Donc, c'est aussi... faut aussi regarder du côté de la demande et des pouvoirs publics qui peuvent accélérer cette demande.
Oui, parce qu'en fait, vu d'en bas, hein, du citoyen, on a quand même l'impression d'une vaste hypocrisie sur ça. Par exemple, là, c'est un super exemple de dire, en effet, pourquoi Total fonctionne? Parce qu'on a besoin d'essence. Sauf que, en fait, la réalité, c'est que pour l'instant, dans la façon dont l'État organise la transition écologique, elle n'est pas vraiment adressée à tous les citoyens. En fait, globalement, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat qui est lié à ça. Il y a un problème de réalité structurelle. Ici, dans le bassin minier, on a un réseau de transport en commun flambant neuf, en plus, ici, sur l'agglomération, qui fonctionne, hein, qui est vraiment efficient. Mais la réalité, c'est qu'il est efficient. Il ne peut pas balayer la totalité des lieux qui doivent être desservis. Donc, quand on habite dans une grande ville, on peut facilement aller se permettre de dire « j'ai pas besoin de voiture ». Et moi, pour l'avoir expérimenté, pour avoir vécu à Lille, j'avoue que la question du permis de conduire, elle me passait à des kilomètres au-dessus de la tête. Maintenant, quand je suis revenue vivre ici, à Lens, il a bien fallu que je me résigne à le faire et à acheter une voiture. Et pourtant, j'aspire à ne pas en avoir besoin, en fait. Mmh. Je me dis, le luxe pour moi aujourd'hui, ça serait de dire « j'ai plus besoin de ma voiture pour aller travailler ». Pour moi, ça serait le summum du luxe. Et en fait, on entend, et encore récemment, on entendait Bruno Le Maire dire « en même temps, on se plaint du prix de l'essence, mais il faut bien qu'à un moment donné, ça se paye exactement pour la transition écologique ». Et en fait, je pense que dans la tête du citoyen lambda, on a l'impression que c'est plus facile de légiférer pour l'État sur... la responsabilité individuelle que d'aller légiférer envers des grosses entreprises, envers pas se mentir, il y a quand même des lobbies, c'est pas un gros mot, c'est vraiment une réalité. Et du coup, il y a une vraie frustration, je pense, de la part des citoyens par rapport à ça, du fait qu'on a l'impression que, on a posé le constat. Pour ma part, je ne crois pas du tout au concept du colibri, de dire, je pense que ça, c'est encore une fois une façon de se débarrasser du problème, quoi.
Mais c'est très intéressant, évidemment. Évidemment, c'est plus facile de légiférer sur les citoyens parce que l'État les maîtrise davantage, finalement, que des multinationales qui sont plus puissantes que certains États. Je n'ai pas la réponse, mais... on peut se dire déjà que, au niveau national, ça illustre à quel point la transition écologique, c'est aussi une affaire, de négociation de nos usages. À quel moment on va avoir besoin d'une voiture, à quel moment on ne va pas avoir besoin de voiture, où est-ce que les pouvoirs publics peuvent intervenir et où est-ce qu'ils ne peuvent plus intervenir. Et aussi, là, typiquement, ça me faisait penser au fait que la vente de voitures thermiques va être interdite en 2035, si je ne me trompe pas. Il faudrait vérifier l'année. Mais ouais, donc voilà, il y a un pouvoir de l'État de légiférer là-dessus et ça donne aussi une visibilité pour le secteur privé, pour les investissements, pour trouver des nouvelles solutions techniques. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, après, évidemment, il y a la question de la démocratie et c'est peut-être là où il y a un rôle à jouer au niveau européen. Mmh. Comment on se dote de structures juridiques au niveau européen pour pouvoir finalement contraindre les multinationales à respecter les lois et les priorités que se donnent les citoyens à l'intérieur de leur pays. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse. Au niveau de l'OMC, les multinationales peuvent attaquer des États s'ils ne respectent pas la concurrence au niveau mondial. Donc évidemment, il y a un dysfonctionnement majeur à ce niveau-là. Et oui, les solutions ne sont pas que techniques. Et évidemment, elles sont politiques. Et c'est aussi pour ça qu'il faut s'engager. Et voilà, et moi, malgré toutes les défauts et les critiques qu'on peut faire à l'Union européenne telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui, c'est peut-être l'échelle en fait nécessaire à laquelle il faut aller pour certains sujets. Et donc la question, c'est comment on transforme l'Europe pour qu'elle nous donne les outils de protection face à un marché complètement dérégulé aujourd'hui.
Alors là, on est en plein dans la troisième partie du livre, qui s'intitule « De nouveaux modèles ». Alors j'en lis quelques têtes de chapitre. L'écologie est-elle un problème de riches? Le capitalisme est-il coupable de la crise écologique? Vers une économie durable, une révolution de l'entreprise et du travail? Serons-nous tous des réfugiés demain? La démocratie, les communs, existe-t-il une autre façon d'habiter le monde? Alors, encore une fois, on ne va pas tout développer, ce n'est pas possible dans le cadre de cette émission. Alors, peut-être juste sur le chapitre qui concerne les modèles. Donc, vous évoquez quatre approches. Un capitalisme, première approche, un capitalisme responsable. Donc là, on parle de croissance verte, on parle de l'exemple de Danone, typiquement. Deuxième approche, réinventer l'entreprise capitaliste, avec typiquement les entreprises à impact ou entreprises à mission. Je pense que c'est à peu près la même idée que vous évoquez derrière. La troisième approche, développer des alternatives au capitalisme, où là, un gros focus sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et enfin, la dernière, encadrer le capitalisme, quatrième approche. Là, il s'agit des nouvelles normes comptables, des nouvelles lois sur le versement des dividendes, du pacte européen. Alors, sans tout développer, quand même, sur quoi est-ce que vous avez envie de revenir sur ces différentes approches ?
Effectivement, une des pistes qu'on a explorées dans l'ouvrage, c'est quelle est la responsabilité d'un modèle en particulier économique qui est le capitalisme. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant de constater, juste pour revenir sur l'histoire, c'est que le dérèglement climatique et le capitalisme sont nés en même temps. Pourquoi ? Parce que le capitalisme est né en Angleterre avec la révolution industrielle et c'est au même moment qu'on a commencé à utiliser du charbon. Et en fait, c'est ce duo redoutable capitalisme-énergie fossile qui a vraiment enclenché le dérèglement climatique avec une redoutable efficacité. Et donc effectivement, c'est quand même intéressant quand on parle de résoudre le défi climatique et écologique au sens large, de se dire... quel est le modèle économique qui va être nécessaire de soutenir pour répondre à ce défi? Est-ce qu'on va pouvoir réformer suffisamment le capitalisme, dont la quête est avant tout le profit? Ou est-ce qu'il faut développer des alternatives, que ce soit des alternatives de modèle économique, donc comme l'économie sociale et solidaire, ou que ce soit carrément via une planification étatique, les deux n'étant pas totalement antagonistes? Et donc effectivement, ce qu'on a voulu refléter ici, c'est qu'il y a beaucoup de débats en fait dans la sphère économique elle-même sur les modèles à promouvoir, avec des gens qui pensent que c'est totalement possible de développer la croissance verte et donc de découpler la croissance du PIB et les dégâts écologiques, donc en mettant de nouveaux indicateurs extra-financiers pour pouvoir avoir plus d'informations et donc prendre les meilleures décisions, ce qui va permettre de soutenir des entreprises qui sont à la fois pérennes financièrement, mais aussi qui ont un impact moins grave sur l'environnement. Donc ça, c'est effectivement une approche qui est très développée aujourd'hui, jusqu'à développer complètement des alternatives en disant, en fait, le capitalisme responsable, ça ne va pas du tout être suffisant. Ça ne pourra pas respecter les limites planétaires et donc il faut laisser la place à des modèles qui ne sont pas basés sur la quête du profit parce que qui dit profit, qui dit quête du profit dit croissance, et il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Peut-être que c'est très intéressant de développer des structures qui n'ont pas de but lucratif et qui ont des structures de gouvernance démocratique qui leur permettent de garantir un certain intérêt général via leurs produits et services, et qui sont à beaucoup plus petite échelle, ce qui garantit aussi une forme de sobriété dont on a bien besoin pour répondre aux défis climatiques. Donc voilà, on a voulu présenter une sorte de panel, et après effectivement, moi à titre personnel, et je pense que ça se reflète très clairement dans le chapitre, hein, c'est que je ne crois pas du tout à la solution du capitalisme responsable. Je ne pense pas qu'il faille mettre fin au capitalisme, je pense qu'il faut mettre fin aux excès du capitalisme via une réglementation extrêmement forte, et qu'on aura besoin de plein de formes différentes d'entreprises qui doivent s'inscrire dans les limites planétaires, et ça, le garant de tout ça ne peut être que le garant de l'intérêt général, à savoir, je pense, l'État, dans une version collégiale du terme.
C'est tout à fait bien résumé. Peut-être aussi, dans les notions qu'on a développées dans ce chapitre, donc voilà, on a frôlé la notion de décroissance, peut-être qu'il me semble que c'était dans les questions. Mais l'enjeu, c'est aussi comment on se donne de nouveaux indicateurs. Le PIB et aujourd'hui la croissance, enfin l'indicateur quasiment unique, hein, le PIB, le chiffre d'affaires, la rentabilité, tout ça, c'est des indicateurs très très financiers, qui sont nos uniques indicateurs quasiment pour prendre des décisions dans le monde économique. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux outils qui se développent, comme la comptabilité CARE, ou la triple comptabilité, qui vient, en fait, c'est un peu technique, hein, mais dans le bilan comptable d'une entreprise, plus seulement valoriser les richesses financières, mais aussi valoriser les richesses sociales, donc par exemple les compétences des gens, et les richesses environnementales, par exemple la biodiversité qu'on peut avoir sur un terrain qui appartient à une entreprise. On pense notamment aux entreprises agricoles. Enfin, voilà. Et donc la question, c'est aussi comment on valorise, comment on rend visible et comment on donne une valeur, pas financière, mais comment on donne une valeur à ce qui est important, et donc pas seulement l'aspect financier, mais aussi l'aspect social et environnemental. Et donc, voilà, comment on peut sortir du PIB, comment on peut sortir de la rentabilité à tout prix, ça passe aussi par se donner des nouveaux outils, parce que c'est ces outils-là, en fait, qui sont utilisés pour prendre des décisions. Donc voilà, pour prendre des décisions autrement, il faut avoir d'autres référentiels, changer de référentiel, dans le cadre du développement économique.
Oui, là, on va s'acheminer vers la fin de cette émission. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, Aurore, on s'était posé la question de la décroissance. Autrement dit, vous l'évoquez, mais on a l'impression presque du bout des lèvres. Alors, même si vous citez certains penseurs de la décroissance, hein, vous parlez d'Ellul, vous parlez de Illich, mais finalement, est-ce que la décroissance n'est pas au cœur quand même de notre thématique concernant la mise en œuvre de nouveaux modèles?
Ah bah effectivement, aujourd'hui, il y a une courbe redoutable, totalement linéaire, entre PIB, donc notre produit intérieur brut, donc la croissance, et la consommation d'énergie. On n'a jamais vraiment réussi à faire plus de croissance avec moins d'énergie. Et donc si, pour répondre à l'enjeu climatique et écologique, il faut absolument baisser notre consommation énergique drastiquement et donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre, la question de la décroissance se pose automatiquement. Donc, la décroissance, elle est inévitable. Elle va arriver, c'est une loi physique. on ne pourra pas continuer, encore une fois, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Donc, de toute façon, on va y venir. La seule question, c'est de savoir, est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on la prépare? Si on la subit, ça va très très mal se passer. Si on la prépare avec un modèle énergétique qui va quand même tenir la route, et un modèle social d'atterrissage qui va quand même protéger les plus pauvres et qu'on revient vers plus de sobriété, ça va mieux se passer. Mais dans tous les cas, c'est inévitable. On ne va pas pouvoir y échapper. Et si on n'y échappe pas, on va droit dans le mur des limites planétaires. Et de toute façon, les conditions de vie sur Terre vont être fortement bousculées.
Après, ça revient aussi à la question, hein, de qu'est-ce qu'on mesure. En fait, la décroissance, on parle de décroissance, là, on parle de décroissance du PIB. Hein. Juliette, tu l'as bien spécifié. Aujourd'hui, la croissance du PIB et la croissance de la consommation énergétique sont couplées. Mais en fait, si on ne peut pas empêcher la décroissance du PIB et de la consommation énergétique qui vont probablement arriver un jour ou un autre, on peut très bien avoir une croissance d'autres choses. Par exemple, on peut avoir un monde économique qui crée plus d'emplois ou plus d'emplois pour tous, qui crée plus d'interactions humaines, plus de richesses, de liens sociaux. Qui crée plus d'opportunités de s'émerveiller face à la nature. Bon, c'est un peu cliché dit comme ça, mais voilà, ça revient à poser la question, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui a la valeur pour nous? Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de croître? Et finalement, si c'est le PIB, si le PIB décroît, qu'est-ce que ça veut dire derrière, en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire décroître les flux d'énergie et de matière? Qu'est-ce qu'on a envie de faire croître? Autre chose. Et donc, il faut inventer un modèle qui valorise autre chose, en fait, pour le faire advenir.
Bien. Merci à toutes les deux. Ce que je vous propose, juste pour terminer, c'est de prendre la parole, si vous avez encore quelque chose à rajouter, un thème qu'on n'a pas évoqué, mais qui vous tient particulièrement à cœur, l'une après l'autre.
Moi, j'aimerais évoquer le dernier chapitre du livre qui s'appelle « Est-ce que l'effondrement est inévitable ?» Voilà. Et donc, peut-être le message pour toutes les personnes qui se posent la question, hein, moi la première, c'est qu'effectivement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans une forme de fatalisme sur ce sujet-là. Je pense que non, l'effondrement n'est pas inévitable. Il faut faire assez attention avec cette notion d'effondrement où on imagine que tout va s'effondrer et on va pouvoir repartir sur une page blanche pour réinventer un monde demain beaucoup plus heureux. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour faire en sorte que, certes, on va devoir gérer de plus en plus de problèmes, mais on a bien sûr la capacité de faire en sorte que ça se passe bien pour un très grand nombre. Et ça passe par intervenir justement sur les modèles financiers, les modèles économiques, les modèles démocratiques. On peut tout à fait ne pas tomber dans un scénario catastrophe. On a tout à fait les moyens de s'organiser collectivement pour faire en sorte de gérer ces problèmes. Donc voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas tomber dans une forme de fatalisme. Donc j'encourage les personnes à lire ce chapitre si ça les intéresse.
Juste sur ce côté d'effondrement, est-ce que ce n'est pas finalement hyper confortable d'imaginer, parce que c'est vrai qu'on se dit, on a l'impression que c'est une façon de dire l'être humain ne réagira pas tant qu'il ne sera pas face à l'inéluctable, tant que ce ne sera pas la fin. Et donc il y a un côté un petit peu confortable à se dire... Ouais, on va comme ça jusqu'au bout, et puis quand on n'aura plus le choix, on changera, puis au moins le changement sera brutal et il y aura moins de boulot à faire finalement. Enfin, il y a ce côté un peu, comme tu dis, il va falloir faire plein de changements et c'est peut-être une façon un peu facile quoi, de se dédouaner.
C'est ça, je pense qu'il faut prendre le problème sérieusement, parce que les effondrements, on en a déjà constaté quand même dans l'histoire, donc il faut quand même prendre ce sujet au sérieux. En revanche, il ne faut pas tomber effectivement dans le fantasme de l'effondrement ou après moi le déluge, parce que ça ne va pas du tout bien se passer. Si on laisse les choses se faire par elles-mêmes.
Oui, et puis c'est ce qu'on met dans le chapitre. C'est pas parce qu'il y aura un effondrement, enfin c'est pas parce qu'un effondrement des écosystèmes se passe qu'il y a nécessairement un effondrement de nos systèmes de société. Donc les deux sont complètement décorrélés. Il faut réinventer nos modèles de société avant que peut-être les effondrements des écosystèmes arrivent et s'accélèrent. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a aujourd'hui. Et du coup, mon mot de la fin, ce serait, en plus de ça, peut-être remettre l'accent sur la nécessité de dialoguer. Et voilà, aujourd'hui, notre société se crispe. On a plus en plus de bulles de bulles de pensée via les réseaux sociaux, mais même dans la société, parce que de moins en moins de liens sociaux. C'est quelque chose qui semble assez inéluctable et cette crispation, ce renfermement de la société sur elle-même, c'est quelque chose, une tendance de fond qu'on voit depuis 20-30 ans et qui se traduit dans les urnes par l'absentéisme ou des votes pour des partis qui proposent des solutions assez extrémistes et ce qu'ont des partis ou des personnes. Voilà. Et peut-être mon message, c'est de dire que pour faire la transition écologique, finalement, on n'a pas d'autre choix que de se reparler tous ensemble et de faire confiance à notre capacité de trouver des solutions collectivement. Et donc, voilà, j'ai presque envie de dire, la première chose à faire, c'est de commencer par là et refaire confiance à nos institutions démocratiques et les renouveler. On n'a pas eu le temps d'aborder le chapitre sur la démocratie, mais il y a aussi plein de choses à faire, voilà, pour instaurer plus de débats d'intelligence collective, de délibération dans notre système démocratique. Et pour moi, c'est une clé essentielle au problème, à la solution, plutôt.
Merci Juliette, merci Aurore. Alors donc je rappelle, hein, le livre « Écologie, mieux comprendre pour tout changer », c'est aux éditions Larousse. Les deux autrices, Aurore Bimont, Juliette Deck. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à Roxane d'avoir assuré la technique. À très bientôt pour un nouveau Demain l'écho. Bye bye.
Ne pas accepter la dictature d'un capitalisme mondial sorti de toute régulation.
Cette économie, elle ne peut pas être la référence absolue. Elle ne peut pas être une divinité.
Ce qui est important, c'est de réunir toutes les énergies pour arriver à formuler un nouveau projet vers lequel on a envie d'aller.
C'est l'occasion de recréer du collectif, de réfléchir ensemble.
Je vous le dis, une autre voie sur le plan économique est possible et la tâche qui nous incombe est exaltante.
L'économie sociale et solidaire peut apporter sa pierre pour ce nouveau projet.